Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Claude est aux manettes à la régie, on le remercie, et Mathieu au micro. L'émission de ce soir est consacrée à la précarité dans la recherche, un manque de moyens et un statut fragile qui touche particulièrement les jeunes chercheurs en sciences humaines. Pour en discuter, la Fondation Copernic reçoit deux invités dans le studio et une intervenante par téléphone. Donc dans le studio, nous avons Artemisa, qui est chercheur en sociologie et membre du collectif des travailleurs précaires de l'USR. Nous avons aussi Gabriel, chercheur en cinéma à Paris 8 et également membre du collectif. Par téléphone, nous avons une enseignante chercheur en sociologie de Paris 1, qui est également membre de l'Observatoire de la précarité de l'Université de Paris 1. Vous êtes là ?
Oui, tout à fait.
Ah, bonsoir.
Bonsoir.
Vous pourrez également réécouter donc, cette émission mercredi prochain à 7h du matin sur Fréquence Paris Pluriel, ou la podcaster, comme toutes les précédentes émissions, sur le site internet de la Fondation Copernic et celui de Mode d'emploi. L'émission de ce soir sur la précarité dans la recherche, on va peut-être rappeler aux auditeurs le parcours du combattant que représente voilà le parcours du jeune chercheur qui doit passer par d'abord un master, donc 5 années après le bac, et faire une thèse. Donc dans les sciences dures, on va dire que voilà, c'est plutôt 3-4 ans en général. Alors que dans les sciences humaines, c'est un peu plus long, hein, Gabriel, c'est ça ?
Oui, enfin maintenant, depuis peu, il y a eu quelques réglementations qui n'ont pas de valeur rétroactive, mais qui sont passées cet été, qui tendent à vouloir limiter à 5 ans la thèse. Mais le nombre de... Enfin, je crois que il n'y a pas de temps moyen exact. Je crois que c'est autour de 4 ans et demi pour un temps en sciences humaines et artistiques. Et on voit des cas qui vont jusqu'à 6 ans, parfois 7, ouais. En passant des années sans s'inscrire. Légalement, c'est 6 ans. Mais il y a toujours des occasions qui font qu'on prolonge.
Ouais, en général, c'est plus lié à cette précarité qu'à la spécificité des sciences humaines et sociales.
Il y a bien sûr le temps long de la réflexion, mais il y a surtout tous les obstacles qui se présentent et qui sont beaucoup plus nombreux, souvent en raison du manque de financement dans les sciences humaines et dans les sciences artistiques, on va dire.
Peut-être que vous pouvez nous raconter, vous, un peu votre expérience depuis le début de votre thèse, Artemisa, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ?
Oui, moi j'ai fait une doctorat européen entre la France et l'Espagne, donc j'ai fini ma thèse il y a 3 ans, donc c'était une thèse non financée, que ça c'est une grande majorité des thèses en sciences sociales et humaines, c'est plus ou moins les 60% des doctorants qui sont non financés. Donc
non financé, ça veut dire pas de bourse.
Pas de bourse. Donc tu travailles, tu as des contrats.
Et ces bourses sont des bourses d'État ou il y a d'autres types de bourses ?
Ouais, je pense il y a différents types de bourses. Il y a aussi les bourses chiffres, mais en majorité.
Les chiffres pour les auditeurs, oui. C'est quand on a financé par une entreprise, hein.
Oui, c'est ça.
Qui a un intérêt minimum sur le champ de recherche.
Qui a un travail parfois un travail en alternance parfois aussi qui est exigé auprès du thésard qui doit travailler vraiment au sein de l'entreprise dans les locaux et parfois faire un travail immédiatement avec ton intérêt.
Un travail opérationnel en plus de sa thèse.
Plutôt.
Donc 60%.
Ouais, plus ou moins, c'est les pourcentages de thèses non financées en sciences sociales humaines.
Non financées, donc ils n'ont pas de bourse. Après, oui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir de revenus du tout, heureusement, pendant toute la durée de leur thèse.
Oui,
mais en tout cas, ils vont devoir faire autre chose à côté.
Oui.
Donc,
travailler, des fois, être en chômage, travailler un temps, être en chômage pour pouvoir finir sa thèse. Mmh. Et une fois qu'on a fini notre thèse, moi, je n'avais pas eu mes 2 années à terre. En tant qu'enseignant contractuel à l'université, on a l'opportunité d'avoir 2 années en tant qu'enseignant contractuel qui s'appelle attaché temporaire.
Voilà, donc là, on donne des cours, c'est plutôt des cours en petit groupe de TD.
Ça peut être aussi en amphithéâtre, exactement. Donc on a les mêmes charges d'heures qu'un maître de conférence et on gagne plus ou moins pareil, sauf que ce sont des des contrats d'un an.
D'accord. Ça représente combien d'heures de...
On gagne moins qu'un professeur, qu'un maître de conférence. Par contre, je crois qu'un contrat d'ATR à temps plein, c'est 1600 euros pour un service de 194 heures.
Ça donne une idée, 1600 euros net, alors que voilà. On a déjà un bac plus 6 ou 7. Quoi.
Non, généralement, c'est bac plus 8. Non, parce que généralement, c'est des gens qui sont en fin de thèse ou qui ont déjà fini.
D'accord.
Mais les postes d'ATR n'arrivent jamais avant la quatrième année de thèse, souvent. Enfin, jamais avant la quatrième année, c'est souvent cinquième ou sixième année. C'est vraiment, on va dire, l'aide finale pour la fin de course, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à cette étape ultime. Et du coup, alors qu'un maître de conf est payé environ 2000 euros en début de carrière.
Parce que c'est valorisé aussi, c'est années de recherche, etc.
Voilà.
Ouais.
Et donc toi, Artemisa,
oui.
Tu as fini...
Donc, et moi,
tu as réussi à finir ta thèse malgré tous ces obstacles et ces difficultés de financement.
Immédiatement après la thèse, j'ai dû faire travailler à mi-temps pour pouvoir donner des cours en tant que vacataire à la fac. Donc, parce que c'est ça, c'est qu'après qu'on a, après 28 ou après 26, je ne suis pas sûre, mais après, il faut qu'on ait avoir un employeur principal pour pouvoir donner des vacations à la fac.
Enfin, pour préciser peut-être, c'est qu'en fait, les vacations, il faut un statut soit doctorant, qui permet donc du coup d'être payé en tant que doctorant, du coup, vacataire. Donc là, auquel cas, payer 30 euros de l'heure, soit du coup, il y a ce qu'on a dit Artemisa, d'avoir une sorte d'employeur principal. C'est un problème de beaucoup de gens qui ont fini leur thèse et qui n'ont pas d'employeur à côté, et qui du coup se retrouvent souvent enseignés sans être payés à la fin, parce qu'il leur manquait un employeur nécessaire pour être payé, en fait. C'est un cas qui arrive assez souvent de doctorants qui se retrouvent à se rendre compte au bout de 3-4 semaines de cours, que finalement il y a un vice de forme en raison de cette absence d'employeurs qui font que du coup ils peuvent pas payer, enfin ils ne peuvent pas être payés à la fin, quoi. Ça, c'est une pratique qui se massifie. Enfin, moi, cette année déjà, j'ai eu plusieurs cas autour de moi semblables à qui on a appris au bout de une fois le semestre amorcé qu'il y aurait une sorte de défaut de paiement à la fin, quoi.
À cause de la bureaucratie, là, on commence à travailler alors qu'on est déjà pas favorisé, et en plus on nous dit qu'on va pas être payé, alors que voilà, de donner des cours, ça fait partie aussi de la stratégie pour se donner plus de chances d'être recruté. C'est difficile de s'en passer, de se dire bon non, je vais pas être payé, donc je vais m'arrêter là.
Parce que c'est précisément ces cas de précarité, parce que on est forcé de donner des cours, et une fois qu'on a fini la thèse, on est obligé de travailler en demi-temps pour pouvoir donner des cours à la fac. Et en plus...
Quand tu dis travailler, du coup, c'est un travail qui n'a rien à voir avec la recherche.
C'est un employeur... C'est mieux si tu peux obtenir un contrat de mi-temps dans la recherche.
Mais
dans l'idéal, c'est très rare. Et donc, dans une grande majorité des cas, par exemple, moi, je travaillais dans un travail alimentaire pour pouvoir avoir la chance de donner des cours en étant très, très mal payé, parce que tu es payé à l'heure. Donc,
c'est un peu absurde.
Payé 6 mois après...
En plus, en général, quand on travaille, on est payé à la fin du mois, mais en plus, vous avez connu ce système qui fait qu'on est payé en moyenne 6 mois après, c'est ça? Ou c'est une règle administrative?
Ah, c'est pas une règle.
Non, c'est pas une règle, c'est la pratique.
Parfois, c'est 6 mois, du coup, mais 6 mois étant le minimum syndical pratiqué. Il y en a qui vont jusqu'à 9 mois, voire un an parfois, mais ça dépend des traditions locales.
Ça fait beaucoup d'ingrédients pour se décourager, tout ça, quoi.
Ou pour mettre en colère. Mais du coup, c'est pas. Non, le côté
bien,
chemin de croix de notre chercheur est bien connu pour ça. Ouais.
On a au téléphone une enseignante chercheur en sociologie de Paris 1. Vous vouliez intervenir, vous, sur. Vous êtes titulaire depuis quelques années.
Je suis titulaire depuis quelques années, 4 à 5 ans. Et tout ce qui est raconté par les deux collègues, en fait, effectivement, et enfin, moi, je me confirme dans
la
pratique.
Vous avez connu sensiblement chose à l'époque.
Effectivement, il y a, en fait, des questions de. Enfin, les situations de défaut de paiement sont fréquentes, puisqu'effectivement, on est face à des complexités administratives assez folles sur le recrutement des vacataires, puisque. On n'a pas le droit de recruter en fait des chômeurs ou des demandeurs d'emploi. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est que les gens qui sont en demande d'emploi ne peuvent pas donner des vacations, donc ils doivent effectivement avoir un autre emploi et avec des finesses, etc. Et ça, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir du coup des chargés de TD dans des équipes qui commencent le semestre et qui finalement effectivement se rendent compte qu'ils ne seront pas payés et qui en même temps ont besoin de ce type d'expérience pour nourrir un CV, pour pouvoir postuler pour un poste de maître de conférence, donc de titulaire à terme. et qui du coup terminent le semestre parce que d'abord parce qu'ils ont le souci du travail bien fait souvent la plupart du temps évidemment, et puis aussi pour éviter d'être mal vu, etc. Et donc effectivement c'est un peu un paradoxe qui est aussi que plus les gens sont compétents, c'est-à-dire Artemisa parlait de sa situation où en fait quand on a terminé une thèse, on a souvent déjà 4 à 5 ans d'expérience d'enseignement à l'université, chez les premières années, en TD mais aussi en amphi. Ça peut arriver également. Et le problème, c'est qu'au moment où les gens sont les plus compétents, on va dire, commencent à avoir une vraie expérience, qui bah, déjà les place en position d'un recrutement comme titulaire, enfin, s'il y avait plus de postes, ça devrait être le débouché en fait mécanique, eh bien, ces gens-là, on ne peut plus les recruter de façon aussi simple. On doit trouver des combinaisons compliquées. Est-ce que certains deviennent auto-entrepreneurs pour pouvoir prendre sur eux, payer eux-mêmes les charges sociales que l'université ne verse pas en fait dans ces cas-là, etc. Donc il y a des formes de paradoxes en fait et qui sont extrêmement dommageables à la fois pour l'expérience de jeunes chercheurs et qui sont aussi compliquées du point de vue du fonctionnement de l'université qui finalement se prive aussi de la possibilité de recruter.
Et de loin, ça paraît totalement absurde.
Oui, c'est un peu absurde. ça fait partie des.
C'est un trop doux mot.
Et donc, en préparant l'émission, vous aviez envie de témoigner un peu. Depuis quelques années, donc vous êtes titulaire et vous vouliez témoigner sur les particularités de travailler avec des pourcentages d'équipes. De chercheurs précaires qui sont assez énormes comme
Oui, parce que juste le point de vue sur la précarité il y a le point de vue du parcours des jeunes chercheurs, les auditeurs peuvent entendre effectivement la galère que c'est de maintenir le cap, parce que là on
parle, il faut avoir le mental solide, j'ai l'impression.
Oui, parce que là il n'est question que d'enseignement, mais tous ceux qui font des thèses aussi publie dans des revues, je pense que c'est moi aussi c'était le cas en fait. L'enseignement, on fait une thèse, mais on est déjà aussi beaucoup investi dans l'organisation de journées d'études, on publie des articles, etc. Donc
il y a beaucoup de bénévolat entre guillemets, du bénévolat forcé.
Je pense que c'est un peu une des choses qui surgit quand on commence un petit peu à avoir une vision effectivement collective, que les expériences individuelles arrivent à se parler et à se confronter, c'est que l'université repose pour beaucoup sur de l'investissement important de personnel qui vont combler les lacunes qui sont liées aussi aux problèmes de financement de l'université depuis quelques années, où on a des vraies contraintes budgétaires, une baisse du financement, une augmentation du nombre des étudiants. Donc c'est comme s'il y avait, en gros, si vous voulez, l'État se retire et puis tous ceux qui sont en partie liés avec les institutions se continuent de tourner et les jeunes chercheurs payent le prix lourd de ce surinvestissement parce que pour avoir un poste, ils doivent encore plus donner des gages qu'il faut qu'ils soient encore plus présents, etc. Et globalement, quand moi je discute avec des enseignants chercheurs plus anciens, la question de la part des vacataires, des contractuels dans les équipes, etc., elle semblait beaucoup moins se poser. Alors il faudrait ici des mises en perspective de données, etc., ce qu'on n'a pas forcément pour les vacataires qui ne sont pas décomptés par les femmes.
Parce qu'en plus, comme par hasard, en préparant l'émission, on se rend compte que c'est des données qui ne sont pas très travaillées, qui sont, on ne va pas dire volontairement cachées, mais en tout cas, qui sont difficiles à extraire.
Il n'y a pas de communication officielle du gouvernement. Je crois que par contre, un collectif de docteurs sans poste avait prouvé qu'il y avait 2,9 millions d'heures par an données par les vacataires.
Il y a les heures.
Les derniers chiffres que nous avons trouvés, c'était de 2008. Donc en fait, il y a 6 millions d'heures d'enseignement qui sont assurées par des vacataires ou par des heures supplémentaires des enseignants-chercheurs titulaires. Oui. Ça, c'était les données. Donc ça, c'est soit l'équivalent de presque 30 000 postes de maître de conférence en termes de charges d'enseignement. Donc c'est. Pour voir, c'est vraiment énorme. Et ça, c'était en 2008, les données, que c'est le ministère qui avait sorti. C'était un rapport de choix de la commission de réflexion sur l'avenir du personnel de l'enseignement supérieur. Et on n'a pas trouvé les chiffres. On demande chaque année au ministère de nous donner les chiffres des vacataires, qui on sait que ça augmente chaque année, mais ils sont incapables de nous donner
Oui,
livrer.
Si vous regardez les...
Incapable ouais. Ou bon,
ils n'ont pas trop envie de nous
de
dire exactement
ces chiffres.
Ouais. Les bilans sociaux des universités sont très significatifs. N'importe qui peut aller les consulter. Vous avez en fait le personnel qui est présenté. Pour le personnel enseignant, je vais juste rester, parce qu'après il y a tout le personnel administratif sur lequel aussi il faut se pencher. Sur le personnel enseignant, vous avez la part des fonctionnaires, la part des contractuels, qui sont des CDD de 1 à 3 ans, selon le moment de la thèse, etc. Et ça s'arrête là, comme si en fait l'université tournait avec comme, voilà, ce volant personnel. Sauf que à côté des contractuels et des fonctionnaires, il y a en fait les fameux vacataires. Et les vacataires, des vacations, normalement, c'est censé venir suppléer un besoin particulier. Imaginons, on crée un TD en dernière minute parce qu'on a un afflux d'étudiants ou on vient d'ouvrir une filière et du coup, on renforce, etc. Mais il se trouve que les vacataires, quand on regarde où est-ce qu'ils se situent dans les organigrammes, dans les TD, dans les maquettes, les diplômes, les vacataires, en fait, interviennent de façon massive et récurrente sur des cours qui sont pérennes, qui sont fixés, budgétisés d'année en année, etc. Et pour vous donner une idée, moi, dans la licence, au niveau licence où j'enseigne, on a calculé, il y avait plus de 50% des heures de la licence qui étaient assurées par des vacataires. C'est-à-dire que, en réalité, quand on regarde l'université dans les bilans sociaux, on a une université qui...
On oublie 50% des gens qui donnent des
cours. On a 50% des personnes qui agissent, qui font tourner la fonction enseignement. Puis il y a 50% d'invisibles, qui sont les vacataires, que personne ne décompte, qui ont les conditions de travail dont les collègues parlent, etc. Et effectivement, c'est un des premiers combats, c'est de rendre visibles ces invisibles, c'est-à-dire de chiffrer, parce que c'est pas à la marge, c'est de façon centrale. Voilà.
Mais surtout, c'est assez inconscient, enfin, c'est une sorte d'inconscient institutionnel où d'un côté, les profs, les élèves ne sont pas du tout au courant, enfin, ils savent pas du tout, enfin,
normalement,
la licence ne fait pas attendre de lui qu'ils connaissent les différences de statut qui traversent la fac, et du coup, comme il n'y a pas ce côté cours magistral pour prof et TD pour précaire, du coup, ils se rendent pas compte. Et du coup, aussi, on a des attentes complexes en fonction de ça, quoi, en termes d'investissement que nous, on peut avoir. Il y a ça. Il y a aussi ce que vous disiez par rapport aux titulaires qui, du coup, ou certains vieux titulaires, en fait, on paye les résidus de leur confort, quoi. Il y a il y a une sorte de re-hiérarchisation des rapports de force au sein des départements en raison de cette situation économique aussi, qui devient assez dommageable pour, on va dire, l'égalité collégiale, quoi. Qui fait qu'il y a quand même...
En gros, chaque titulaire en a bavé avant et...
Mais justement, pas tant. Ça dépend des départements et des générations surtout, quoi. Mais non, justement, je pense qu'il y a aussi ce fait que les plus vieux titulaires, je pense que les jeunes maîtres de conf ont connu, du coup, la galère, mais les plus vieux titulaires ont justement, ont fait leur croissance académique à une époque où il y avait une sorte de confort, des postes, et maintenant ne sont pas toujours très très conscients de cette espèce de part obscure de l'université qui est en train de grouiller derrière eux, quoi. Donc il y a une sorte d'alors que finalement il y a quand même ce justement, si d'un côté on draine l'argent des universités et on garde une sorte de mandarina un peu confortable économiquement, du coup ça fait payer tout le poids de la décroissance sur les jeunes catégories, quoi, sur les jeunes précaires.
Et ça touche aussi du coup donc, les jeunes entrants dans le champ, mais c'est aussi les étudiants qui sont en licence qui payent aussi le prix fort de cette dégradation des conditions d'études, parce que les vacataires sont essentiellement situés au niveau des licences. Moi, dans ma licence, il y a 60%, enfin, entre 50 et 60% des heures, ce sont des vacataires. Les vacataires, c'est des personnels de la fac qui sont des candidats au métier, mais qui ont effectivement des conditions de vie, avoir un travail à côté, jongler entre quatre facs. Moi, j'ai des chargés de TD de mon équipe qui ont des boudeurs à Nanterre, des boudeurs à Paris 1, d'autres dans un collège, etc. Et en fait, ils ont aussi du coup, enfin, à la fois il y a un surinvestissement. Enfin, moi, je suis toujours assez scotché en fait par l'engagement et l'engouement pédagogique en fait des chargés de cours quand on discute en fait des conditions de vie, des conditions de travail. En réalité, les étudiants ne mesurent pas à quel point ils ont de la chance que finalement les vacataires ne viennent pas juste lancer le cours et repartir. Ils continuent d'assurer les missions, corriger les copies, suivre les étudiants, ils les connaissent, etc. Comme un titulaire, en réalité, peut-être même parfois mieux, parce que quand on commence, on est encore plus enthousiaste, etc. Mais en réalité, les conditions d'études aussi sont dégradées, parce qu'il y a un turnover dans les équipes extraordinaires, il n'y a pas vraiment de mémoire, à chaque fois on doit tout refaire. Enfin, donc voilà, c'est les jeunes entrants qui payent, mais c'est aussi les étudiants qui sont dans les filières les moins sélectives également, et puis aussi les moins élevés, on va dire, dans le cursus.
Bien, tout à l'heure, je disais que tous ces obstacles pouvaient pousser à se décourager, mais aussi à s'indigner et à se mobiliser. Donc on va justement en parler dans la deuxième partie, après un premier intermède musical. On va écouter California Crossing, le titre Separate Kingdom. Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, c'est l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic, consacrée à la précarité dans la recherche. Après avoir fait un petit état des lieux de la situation des jeunes chercheurs, surtout en sciences sociales, on va aborder un petit peu les mobilisations qui ont eu lieu. Donc on ne va pas non plus revenir trop loin, mais peut-être Artemisa, si tu peux nous remémorer un petit peu les mobilisations à la fin des années 2000, 2009, 2010, au moment de la loi LRU.
Oui, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités en 2007. Donc, il y a eu un grand mouvement social, pas seulement en sciences humaines et sociales, mais donc il y a eu vraiment les personnes étaient vraiment très inquiète sur la situation des universités, qu'on voit la conséquence aujourd'hui, c'est que la situation ça a vraiment dégradé dans les dernières décennies, les dernières 15 ans. Donc en 2009, il y a eu des grandes mobilisations, surtout parce que c'était après aussi la création de l'Agence nationale de recherche. Donc il y a eu une grande résistance à cette agence, en fait, parce que, par exemple, l'Agence nationale de recherche, c'est une agence qui, depuis sa création, a consacré une grande partie de son budget au financement des salaires des agents en CDD. Donc, en 2009, il y avait 7000 CDD payés par l'Agence nationale de la recherche. Donc, on se disait, c'est toujours la même précarisation des postes. Il n'y a pas
la même logique,
une vraie création massive des postes. Et les universités, maintenant, avec la loi de la LRU, ils se retrouvent avec des faillites qui font que maintenant chaque université.
En gros, c'était de diminuer les dotations de l'État et de dire aux universités, à chacune, d'aller chercher ses propres moyens complémentaires auprès des entreprises.
C'est au niveau du budgétaire, mais après, il y a aussi au niveau administratif d'autonomiser, de renforcer les pouvoirs de la présidence au sein de chaque université. Parce que surtout, ce qui a augmenté, c'est les salaires des présidents d'université qui, eux, ont augmenté.
Il y avait quand même quelque chose qui augmentait, mais c'était pas pour tout le monde.
Voilà, mais après, en même temps, surtout, du coup, bizarrement, dégager l'État, parce que maintenant, ils ont plus les moyens. Donc, typiquement, on a les mensualisations. Quand on allait voir Thierry Mandon pour lui en parler dans une sorte d'action qu'on avait faite, son argument, c'est l'État ne peut rien faire. En fait, la LRU a surtout permis de couper le cordon entre fac et université, en faisant que l'État a lui-même renoncé à son pouvoir de législateur sur les facs et sur leurs pratiques en interne, quoi. Du coup, maintenant, c'est vraiment une sorte de désengagement légal, moral et économique complet, quoi. C'est dont l'avenir est finalement, enfin, l'horizon est la privatisation des facs, quoi. Mais ça serait le premier pas dans une sorte de long processus de privatisation, quoi.
Raison pour laquelle il y a eu, pas seulement les mobilisations en 2009, en 2012... Il y a eu aussi une autre grande mobilisation.
Parce qu'en gros, en 2009, malgré des mobilisations fortes, il y a eu des manifestations et pas mal d'actions sur tout le territoire, dans la plupart des universités, mais il n'y a pas eu beaucoup de résultats obtenus.
Non, il n'y a pas eu des succès concrets, et qui fait que, précisément, c'est à chaque fois plus difficile de mobiliser les chercheurs, les enseignants-chercheurs, dans la cause, parce que malgré le fait que tout le monde reconnaît la grande précarisation,
je pense que tout le monde n'est pas trop au courant. Je pense qu'il y a encore une sorte de cliché, enfin, d'imaginaire qui fait qu'on va postuler que les chercheurs ça commence à changer à peine, mais je pense que l'image sociale du chercheur reste quelqu'un d'assez confortable, etc. Alors, justement, il y a une sorte, comme on parlait d'inconscient, d'invisibilité, c'est que personne ne se doute à quel point les facs sont une situation exsangue totalement, quoi. Enfin, alors que le but est un peu ça. Enfin, je pense que j'ai un peu l'impression que la stratégie sur le long terme soit de vampiriser les facs pour après rendre obligatoire les frais d'inscription, quoi. mettre devant le fait accompli d'une faillite réelle qui en ce moment arrive partout, quoi. Il y a une sorte de stratégie de démolition avant de raser les maisons, quoi.
Mais de développer le modèle un peu des grandes écoles.
Bah, les rues étaient sur un modèle américain, hein, supposément, quoi. Sauf que le modèle américain fonctionne sur tellement d'autres modes de subvention, c'est totalement aberrant de postuler qu'on appliquerait la chose en France de manière aussi magique. Mais du coup, oui, non, bien sûr, le modèle idéal à la fin, c'est de supprimer l'idée que l'éducation nationale soit liée à la responsabilité de l'État, quoi. Qui était un peu le pilier de la fac française depuis la Troisième République, quoi, qui était un peu le truc qu'on a mis en place, qui était une spécificité française aussi.
Oui, donc moi j'ai l'impression de toute façon, quand je parlais de la mobilisation, c'est aussi entre les grands nombres des collègues qui sont dans des situations de précarité, et que cette situation de précarité fait aussi que c'est aussi difficile de mobiliser parce qu'on n'est pas dans son corpus, surtout une fois qu'on a fini la thèse et qu'on est des docteurs sans poste.
On prend un risque certains décideurs et on doit travailler à côté.
Nous ne savons pas un groupe. On donne des cours dans différentes facs. On n'est pas...
Oui, déjà le fait de se retrouver sur un même endroit, c'est pas toujours simple.
Comme c'est un truc qui est un milieu qui fonctionne dans une sorte de concurrentialisation un peu forcée, même si on la refuse dans les faits, mais quand on voit qu'il y a 80 candidats par poste,
ouais,
forcément, du coup, il y a la stratégie de... Ce qui fait que, du coup, en ce moment, on a une situation où il y a une sorte de sympathie généralisée pour ce qu'on peut représenter comme colère, au sens où même au sein de la fac, personne n'irait dire qu'on a tendance de se plaindre, parce que ce serait aberrant. Et en même temps, il y a une sorte de limitation des mobilisations de chacun, parce que, du coup, du fait de cette concurrentialisation, du fait aussi du manque de temps, qui est un truc... on manque tous terriblement de temps pour finir nos recherches, etc. Ce qui fait que du coup, il y a une sorte de ratage dans la mobilisation pour vraiment la faire grandir au-delà d'un seuil qui permettrait vraiment de faire une sorte de marmite de renversement, marmite à renversement, quoi. Enfin, une sorte de point de bascule. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un peu... La précarité empêche une mobilisation contre elle, quoi.
Mais malgré ça,
malgré tout, nous sommes
il existe à
l'historique,
chaque
là.
Fois. Il ouais. existe à chaque fois des mobilisations. Donc en
ça
2012,
revient, donc,
il y a eu aussi, par rapport à la loi Sauvadet, aussi une titularisation promise par l'État des agents contractuels, etc.
Oui, là, mais c'était une loi qui ne concernait pas que l'université.
Exactement.
De titularisation des vacataires dans la fonction publique. Ouais.
Oui, exactement. Donc c'est à partir de cette loi, qui a eu aussi une mobilisation, donc on a été reçu plusieurs fois au ministère. Que d'ailleurs, c'est très difficile d'avoir des interlocuteurs au ministère parce que on a toujours cette difficulté de pouvoir de nous faire entendre nos revendications. Mais malgré ça, on essaye à chaque fois, comme maintenant, à partir de la loi travail, qu'on a commencé à notre fois.
En gros, entre 2012 et 2016, là, il y a eu une petite période d'accalmie ou de léthargie, je ne sais pas.
il y a eu en 2012 des collectifs de précaires qui sont créés dans toute la France. Et on avait fait des actions conjointes pendant un an, mais évidemment, après... comme tout mouvement social,
c'est dur de
faire perdurer. En fait, il y a deux choses. C'est que nous, déjà, on n'a pas de syndicat, de fait. Bon, déjà, on n'est pas tous pro-syndicalistes en tant que tel. Mais de toute façon, le corps des métiers en tant que tel fait qu'il n'y a pas de syndicat possible puisque c'est un statut transitoire. Et aussi du fait que c'est un statut transitoire, du coup, ce n'est pas des alliances qui restent forcément très longtemps, quoi. C'est aussi ça qui fait que, du coup, on a des mobilisations très généralement motivées parce qu'on est quand même, pour la plupart, une culture politique plus ou moins aiguë, mais qu'en même temps, il y a cette... impossibilité, notamment vis-à-vis de l'État. Comme il n'y a pas de syndicat pour nous... on n'est pas forcément pour, mais l'État serait beaucoup plus à l'aise avec un syndicat auquel parler plutôt qu'avec des collectifs qui, du coup...
quelle est la position des syndicats de titulaires, essentiellement? Est-ce qu'ils commencent à prendre en compte la situation? Est-ce qu'ils commencent à participer aux mobilisations?
Si, je pense qu'on a toujours fait des alliances avec des syndicats et que, d'ailleurs, nous, en 2012, mais aujourd'hui aussi, on participe à l'intersyndicale, essayer d'avoir des actions communes parce que les syndicats, ça dépend toujours de quel syndicat, mais il y a toujours les mêmes revendications on peut avoir toujours des points de...
Et on est en contact avec l'intersyndical pour différents... Enfin, on en parlera peut-être après, mais il y a un appel à manifester le 7.
Le 7 novembre.
Le 7 novembre,
voilà, qui n'est pas relayé. À quel endroit, à quelle heure?
À l'Assemblée nationale, à 16h, pour cette journée de discussion du budget, du coup. Donc, discussion du budget à l'Assemblée. Et donc, du coup, on y va pour... donc, c'est un appel de l'intersyndicale. Donc, voilà, qui montre aussi... Et donc, du coup, on a fait une réunion il y a 2 semaines et il y avait plusieurs émissaires qui étaient là. Donc, du coup, non, il y a un travail de... Enfin, convergent, on va dire, quoi. Mais après, nous, en tant que groupe, on n'a pas nous-mêmes d'entité syndicale propre, doctorant, docteur sans poste et tout ça, quoi. Mais sinon, non, bien sûr qu'il y a une sorte de...
Après, ce qui, à mon avis, aussi participe du fait qu'il y a à la fois des rencontres avec les syndicats, des titulaires, et puis aussi parfois des difficultés quand même dans le dialogue, c'est que d'un point de vue syndical, il va pas y avoir, par exemple, il va y avoir une ligne de défense de création de postes, de fonctionnaires, etc., de postes de titulaires, et peut-être des formes de réticence qui peuvent être un peu incompréhensibles, mais des formes de crainte, par exemple, à répondre aux demandes des précaires de l'enseignement supérieur qui vont demander, par exemple, des formes de relâchement de ces aberrations administratives dont on a parlé, c'est-à-dire le fait qu'il faut avoir un employeur principal quand on est vacataire, qui à la base, en fait, était, il me semble, un ensemble de dispositions qui étaient censées rendre impossible la pérennisation et la normalisation des vacations, et qui aujourd'hui deviennent, les choses se sont pérennisées, sont des grosses contraintes qui pèsent sur les individus, c'est-à-dire que quand on est précaire, devoir se mettre, devenir auto-entrepreneur pour faire des cours, donc du coup, enfin, payer les charges sociales soi-même sur ses heures qu'on a, etc., ça devient délirant. Et lutter pour alléger ce type de contraintes, etc., ça peut être un combat que n'aiment pas endosser en fait les syndicats, parce que c'est une façon aussi de régulariser, on peut se dire, c'est une façon d'accepter finalement... la pérennité en fait de la précarité, des CDD, des vacations, etc. Et donc à la fois il y a évidemment un souci partagé et une lutte commune vers des postes de titulaires plus importants, ne serait-ce que pour répondre aux missions de l'enseignement supérieur et au public aussi d'étudiants qui est de plus en plus nombreux, etc. Et en même temps la difficulté peut-être des syndicats à agir et la réticence peut-être de devoir pérenniser des situations ou devoir améliorer des situations qu'on voudrait voir disparaître. J'imagine qu'il y a aussi ce type de choses. Après pour d'un point de vue aussi pour éclairer aussi il y a l'évolution ces dernières années, la précarisation, la multiplication des contrats, etc. Il y a une forme de concurrence entre les candidats au métier. Mais en fait, ce qui se passe aussi du point de vue des titulaires, c'est qu'en termes au sein même de la carrière des titulaires, on a tout un mouvement de fond qui va vers l'individualisation des carrières, des systèmes de primes, des histoires de pôles d'excellence, des laboratoires d'excellence dans lesquels il faut être, etc. Et donc, il y a aussi en fait une espèce de contexte qui freine aussi les capacités de mobilisation qui permettent d'aller au-delà du simple sentiment de sympathie. C'est que globalement, tout le monde a, chez les titulaires, on a aussi des formes de, enfin, il y a aussi des formes de pression à l'individualisation, à finalement rentrer aussi dans le mouvement. C'est-à-dire, je pense aussi qu'il y a peut-être une fraction des titulaires qui se disent, bon, on va vers un enseignement supérieur à 2 vitesses, quoi, en gros, avec des pôles d'excellence et puis des collèges universitaires qui seraient moins dotés, qui feraient un travail plus à distance de la recherche, etc. Et puis, tout le monde court vers l'excellence, en fait. Peut-être, et que du coup tout le monde aussi a partie liée avec ce qui se passe concrètement. Par exemple, les titulaires peuvent s'enthousiasmer pour les nouveaux dispositifs de financement d'excellence, laboratoire d'excellence, etc. Parce que ça génère de l'argent dans certains endroits, des projets à l'international, etc. qui musclent des carrières, et en même temps ces mêmes structures sont celles qui produisent énormément de contractuels, énormément de contrats courts, etc., etc. Et donc du coup, il y a aussi un dispositif très malin, hein, finalement, qui fait que ceux-là même qui pourraient être les alliés objectifs, etc., parce que la précarité dans l'enseignement supérieur, ça touche aussi les titulaires dans les conditions de travail, etc. C'est pas que ça peut être le souci de tout le monde, mais ceux qui pourraient être des alliés objectifs, quelque part, pensent que en courant, ils peuvent aussi tirer une forme d'intérêt, je pense. Donc il y a chacun. Voilà, ça rend pas facile mobilisation, mais en même temps il y a des choses qui se passent. Parfois on arrive à aller au-delà, mais c'est vrai que c'est pas évident pour des raisons pas seulement de méconnaissance, même s'il y a aussi des méconnaissances sur les conditions réelles de travail des précaires.
Donc là, la dernière mobilisation, donc c'est dans le cadre de la lutte contre la loi travail, ça a un peu relancé le mouvement des jeunes chercheurs.
Oui. Et avec plus ou moins les mêmes revendications. Mais on sait aussi que c'est toujours une volonté politique aussi de répondre aux questionnements que les collectifs de précaires font. Par exemple, pour les financements, on sait qu'ils devraient, on lutte pour avoir une réorientation des fonds publics disponibles. On parlait de l'Agence nationale de la recherche. Il pourrait une réorientation du budget de l'ANR pourrait aider la création de postes pérennes pendant la période nécessaire pour résorber la précarité accumulée ces dernières années. Et par exemple, les crédits impôts recherche. Donc ça, on a eu le Science en marche, que c'était aussi une initiative qui a beaucoup parlé dans les médias aussi, et les CIRC qui étaient créés en 2007, initialement destinés à encourager les efforts des entreprises en matière de recherche et développement. En fait, son objectif était d'augmenter la transversalité des publics et privés, mais cet objectif n'a pas été atteint. Et donc, une réorientation du CIRC pourrait servir à financer la création de postes et alimenter les fonds propres des laboratoires et des universités.
Ouais, parce que ouais, enfin, le crédit impôt recherche, maintenant, c'est que quand L'Oréal va faire des recherches pour développer un nouveau maquillage, ça va être considéré comme une sorte de d'aide à l'avancement de l'humanité, et du coup aider à une sorte de défiscalisation de l'entreprise, ce qui fait que voilà, il y a des ce que je disais tout à l'heure, le crédit impôt recherche est deux fois le financement du CNRS. C'est toute partie de l'argent sur lesquels
c'est assez énorme quand même.
Oui, voilà,
en 2012,
on n'a aucun contrôle quoi.
En 2012, hein. Et je pense que les données aujourd'hui.
Non, je pense que ça s'est aggravé depuis, mais voilà, c'est que c'est toute une part de trucs qui sont des recherches qui sont généralement pas de la recherche fondamentale pour ce qui s'y mesure, et qui après financent pas des masses dans certains secteurs des sciences humaines quoi, ou alors sur des trucs très très stratégisés par les entreprises. Mais voilà, c'est pas un truc qui aide à, c'est une autre temporalité de recherche. Ça, c'est un peu le grand problème dont on n'a pas beaucoup parlé maintenant, mais c'est les nouveaux types de financement et de distribution des postes vont avec une temporalité intellectuelle qui n'est plus celle de la recherche au long cours, quoi. Qui est aussi un truc qui a des effets sur la pédagogie, sur tout ce qu'on veut, mais il y a une sorte de court-termisme intellectuel qui, du coup, va aussi dans le coup de la production de concepts, dans tout ce que vous voulez, mais qui a des effets dommageables sur, tout simplement, on va dire, l'histoire intellectuelle, quoi.
En plus, c'est finalement assez contre-productif parce que quand on discute avec des collègues, par exemple, à l'étranger, qui sont par exemple souvent dans des systèmes universitaires qui ont déjà qui sont beaucoup plus sur des contrats, la titularisation est très lointaine, elle est rare, etc. Le système français avait une forme de tranquillité qui autorisait des fonds de recherche long cours, etc., qui attire en réalité. Ça, c'est que il y a une sorte d'aberration, en fait, on casse une des particularités du système français d'emploi, de fonctionnaires de la recherche, etc., qui autorise des projections longues, d'exploration, etc., qui est le temps de la recherche, qui produit des choses, et on le casse en projetant notre système dans un dispositif copié sur d'autres systèmes dans lesquels, en fait, on n'a pas les moyens non plus de suivre. C'est-à-dire que, par exemple, un système qui va promouvoir des formes de la titularisation vraiment très tard, etc., enfin, les niveaux de rémunération des chercheurs sont absolument pas les mêmes, la place des enseignants-chercheurs dans l'espace social n'est pas les mêmes, etc. Donc, en fait, il y a une forme de course à un modèle qui serait l'idéal. Donc, comme l'a rappelé le court-termisme, il faut motiver, on est des entrepreneurs, chercher un entrepreneur de sa vie, entrepreneur de ses projets, etc. Et qui, en réalité, enfin, là, il y avait je sais plus si c'est selon la recherche qui avait comptabilisé le nombre d'heures passées par les chercheurs à rédiger des projets, qui, de toute façon, les projets financés par l'ANR rapportés aux candidatures, le pourcentage est extrêmement faible. C'est délirant, en réalité. Il y a une part du temps de travail qui passe dans la rédaction de projet qui devient presque une posture. Si on fait un projet, c'est bien, ça veut dire qu'on est motivé, etc. Et puis derrière, qui débouche pas, ou alors qui débouche sur des modalités de financement énormes qui vont demander un temps de gestion délirant, du travail administratif fou. Et finalement, des chercheurs surqualifiés se mettent à passer des heures à faire du RH, à faire de la rédaction de budget. C'est délirant, en réalité. C'est comme si, vous payez des gens qui ont fait énormément d'études pour faire un budget, pour essayer de comprendre. C'est assez contre-productif. Il y a quand même des directions qui sont des choix idéologiques, en gros, qui ont l'air de vraiment tenir, voilà, de tenir à cœur à ceux qui les mettent en place. Mais c'est assez, voilà, c'est effectivement, c'est assez contre-productif. Finalement.
Avant d'aborder quelques revendications et quelques pistes de solutions pour réduire la précarité dans la recherche, on va faire une courte pause musicale avec Bob Dylan, Soon After Midnight.
I'm searching for friends at midnight, and I don't want nobody but you.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic. Et on s'intéresse ce soir à la précarité dans la recherche. On va revenir un petit peu sur le mouvement là de 2016, donc un collectif des travailleurs précaires de l'ESR, donc de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui s'est monté. Gabriel, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment le mouvement est réapparu
avec ce côté mémoire courte que la plupart d'entre nous ne savaient pas qu'il y avait, ou avaient entendu parler d'un mouvement antérieur sans en connaître toujours les acteurs. Mais du coup, en fait, c'est apparu d'abord à des niveaux locaux. Enfin, il y avait eu, je crois, Paris 1, par exemple, qui avait un collectif depuis très longtemps, enfin, de doctorants en lutte. Puis dans d'autres endroits, on était à Paris 8, où il y avait aussi un collectif qui s'était créé juste avant ou pendant le bouillonnement des débuts contre la loi travail, quoi. Et à un moment, je crois qu'on s'est fédérés tous ensemble. Il y a eu un appel à créer des collectifs partout ailleurs en France et à se réunir en assemblée générale le 13 avril, en mi-avril. Voilà, où là, on avait fait une AG à la Bibliothèque Nationale de France, lieu spontané, normal pour les chercheurs, de faire une sorte de grande AG là-bas. Et après, ce jour-là, il y a eu, je sais plus, une quinzaine de collectifs qui ont champignonné un peu partout sur le territoire. Et puis après, dans la foulée, donc du coup, des rencontres nationales pour établir une sorte de calendrier d'action générale.
Programme commun,
on va dire, c'est ça, sans le côté mitterrandien. Et voilà, de monter une sorte de pas vraiment d'organe en tant que tel, quoi, mais voilà, une sorte de carte des collectifs au niveau national, quoi. Ce qui fait qu'on a abouti après un truc plus fonctionnel de groupe, tu sais, mais du coup on est très élastique au niveau local, surtout parce que les batailles se gagnent aussi au niveau local, notamment tout ce qui est mensualisation, exonération des frais d'inscription, c'est des choses qui ne se voient qu'avec chaque administration à cause de la LRU dont on parlait tout à l'heure, hein. Le problème c'est que
c'est si important que ce soit pas que un mouvement parisien.
Oui, bah surtout c'est très important. Dans des grosses facs, il y en a partout en France. Il y a des facs qui concentrent beaucoup de doctorants, surtout en province, parce que il y a des pôles universitaires avec des nombres de précaires immenses en province.
On peut citer le site internet, donc precaireesr.fr, si vous voulez vous renseigner sur les mobilisations, sur les actions et sur les. Il y a une plateforme donc de revendications. Il y a 10 principales revendications qui ont été rédigées.
Qui sont 10. On a beaucoup de points de conflit en plus, mais comme on est progressif. Mais oui, donc du coup, on avait, si je peux juste les résumer en vitesse, il y avait initialement la titularisation déjà de tous les contractuels et vacataires de l'enseignement supérieur. Donc on disait tout à l'heure, c'est quand même la moitié de l'armée.
La création massive et financement public des contrats doctoraux et des postes de titulaires à l'université et à la recherche. Il y a aussi une troisième, c'est l'audit public sur l'état de la précarité dans les universités et les organismes de recherche, la mensualisation du paiement des vacataires et des contractuels et respect du droit du travail, et la fin du travail gratuit et rémunération de toutes les activités invisibles effectuées par les non-titulaires. Donc Christelle parlait exactement de ça, sur les surveillants d'examen, les corrections des copies, les heures supplémentaires non payées, les vacations et activités de recherche non rémunérées, les records abusifs à ces stages. Et une autre réivindication, c'est l'accès au doctorat, que l'accès au doctorat doit être un droit pour tous et toutes. Et la transparence dans l'attribution des financements des thèses, des postes à terre et des contrats postdoctoraux, l'allongement de la durée de rattachement des nouvelles et des nouveaux docteurs à leur laboratoire, aussi l'abrogation des critères de nationalité dans l'accès aux postes et financement. et la lutte contre les discriminations et la lutte contre les discriminations systématiques à l'université et dans la recherche. Mmh. Oui. C'était un de nos 10 réévindications
voilà, après ça, de collectif. Ça renvoie à beaucoup de problèmes dont on n'a pas parlé.
En gros, c'est
avant.
Un peu l'inverse de tout ce qu'on a décrit dans la première partie. Quoi.
Ouais, mais non, il y a toujours des points qu'on n'avait pas encore, genre, qui peuvent être plus occultes pour les gens, parce qu'on n'a pas abordé tous les points non plus de colère en une heure. Donc, on aurait dû faire un week-end de radio, hein, désolé. Mais du coup, non, voilà,
sur le travail, un week-end spécial.
Genre, par exemple, la fin du travail gratuit, c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas assez mentionnée, mais le côté où ce chantage général qui fait le milieu fait que, voilà, on accepte. De corriger des copies, de surveiller des examens, de faire des petites mains, voilà, il y a beaucoup de choses.
Oui, pas seulement, là, on parle pas seulement de la situation des doctorants qui n'ont plus de travailleurs principaux et qui se rendent compte qu'ils vont pas être payés. Là, c'est des choses qu'on demande en plus.
Ah, tout, oui, non, mais ça, c'est
que on vous dit.
C'est le côté fantassin.
Pas forcément que vous allez pas être payé, mais.
Le côté clanique et le côté fantassin fait que, voilà. Doctorants...
Comme vous êtes candidat, de toute façon, vous avez plutôt intérêt à pas trop le ramener, en gros.
C'est ça, mais on parlait aussi de la transparence dans l'attribution des financements, etc., des postes. C'est que là aussi, c'est un truc dont on a pas évoqué, mais c'est le côté tribal. Bon, vous me direz, c'est un peu normal dans n'importe quelle institution, mais là, il y a ce côté. Il y a une opacité parfois sur les attributions qui sont liées à des positions de pouvoir qui font que, bon, voilà, pour on va dire, mettre des barrières à tout ça, on voudrait mettre certains dispositifs de protection contre cette forme de népotisme, on va dire. Voilà, il y a beaucoup d'autres aspects qu'on n'a pas évoqués, mais voilà, c'est ce site. Précaire au pluriel, ESR.fr contient à peu près tout un descriptif, des chiffres et une précision quant aux revendications. Quoi. Donc, faut pas hésiter à aller voir.
Oui, évidemment, depuis toutes les mobilisations, c'est un des plus importants, c'est toujours la titularisation et la création des postes. Donc,
ça,
il y a une map.
La revendication numéro un, mais c'est pas
seulement.
Vous avez aussi des revendications qui vont au-delà des moyens. Il y a des choses à mettre en place. Des collaborations, des procédures qui soient, de loin on a l'impression que ce parcours du combattant, il crée des phénomènes
de servilité.
Il
y a une sorte de culture servile qui se met en place insidieusement, qui est assez dangereuse aussi sur le long terme, quoi. Enfin, une sorte d'inféodation de tellement de personnes à quelques personnes qui restent un peu les gardiens de l'ordre, quoi, qui sont.
D'ailleurs, on n'a pas rappelé tout à l'heure le chiffre du nombre de docteurs donc qui ont soutenu leur thèse et qui ne trouvent pas de poste.
Des docteurs sans poste,
voilà. Ils ne trouvent pas de poste dans la recherche s'ils ont fait une thèse.
Là, il n'y a pas le chiffre parce qu'après, il y a des docteurs sans poste qui ont arrêté de chercher. Bon, ça, c'est quand même beaucoup. Mais il n'y a pas moyen de comptabiliser le nombre de docteurs sans poste en attente de poste. C'est un truc parce qu'il y en a qui sont en collège en ce moment.
Il y a souvent la blague du chercheur qui cherche, mais là, c'est le chercheur qui cherche à chercher, en fait.
C'est ça, oui. Non, mais il y a ça. Moi, je sais que pour être en cinéma et avoir pas mal gravité dans d'autres sphères propres au cinéma, je vois que dans des institutions culturelles, les festivals, les boîtes de prod, il y a des chercheurs partout qui sont en attente d'un éventuel passage au purgatoire ou au paradis, quoi. Mais il y a une sorte de dissémination un peu partout de gens qui cherchent sans chercher, mais parce qu'on ne sait pas quelle est la.
Parce qu'il y a peu de perspectives.
Voilà.
Et tout à l'heure, hors antenne, tu me disais, tu m'avais parlé d'un chiffre, 10% à peu près de docteurs qui ne trouvent pas de poste.
Non,
10% de.
Non, je te disais.
C'est l'inverse, 10% des docteurs qui trouvent un poste dans la.
Non, je sais que sur un poste en cinéma, en tout cas, moi, sur ma situation, c'est. 80 candidats par poste.
Voilà, ça déjà, ça donne un ordre d'idée du faible.
Mais voilà, après, on n'a pas
la probabilité d'être recruté.
On n'a pas de stats vraiment exactement sur les gens qui trouvent ou pas, ou finissent par trouver, ou partent ailleurs. Après, on n'a pas vraiment parlé non plus, mais c'est vrai que le côté doctorat n'est pas une passerelle universelle dans les champs sociaux, quoi.
Il y a un manque de reconnaissance en France du doctorat dans l'ensemble de la société, dans les services publics, dans les
Après, je dis pas qu'il faut absolument penser que le doctorat est une clé de compétence absolue, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas du tout typiquement en Allemagne, qui est un pays qui a une tendance à surévaluer le doctorat et en faire une sorte de titre honorifique infini. Nous, c'est un peu le phénomène inverse de
on postule
une sorte de côté un peu dégénéré dans l'esprit surcultiver du doctorant, quoi, qui est une sorte de truc un peu trop abstrait, quoi. C'est une mèche sociale, on va dire.
Est-ce que. Il nous reste 2 minutes, dernier mot pour chacun.
Juste pour dire, en gros, la liste des revendications montre aussi les difficultés que rencontrent aussi les autres catégories de personnel dans les universités. La mensualisation, par exemple, ça paraît être hyper normal, ce serait normal de payer tous les mois, etc. Quand on le pose vraiment sur la table dans une université, on se rend compte qu'une des raisons de la non-mensualisation, c'est aussi parce que le personnel administratif est en sous-effectif, avec des contractuels, du turnover, etc. Mmh. Et tirer aussi les revendications des enseignants-chercheurs, c'est aussi mettre le doigt dans les conditions de travail aussi et de fonctionnement des autres catégories d'universités, que ce soit les personnels administratifs, techniques, les appariteurs, les bibliothécaires, etc. Il y aurait beaucoup de choses en fait à dire sur les conditions de travail de toutes les personnes qui essayent désespérément de faire fonctionner un service public de l'enseignement supérieur qui est de moins en moins financé. Voilà.
Comme souvent dans notre émission, on se dit qu'on aurait pu, on aurait dû prendre un créneau de 2 heures, mais on va devoir rendre l'antenne. L'émission suivante. Je remercie vraiment nos 3 invités et d'autres personnes qui m'ont aidé à les trouver. Ils se reconnaîtront, notamment Emmanuel et Virginie à Montpellier. Voilà, le prochain numéro de Mode d'emploi animé par la Fondation Copernic, ce sera le vendredi 25 novembre sur la 6e République. Voilà, on a le droit de rêver. Bonne soirée à tous. Et à bientôt.
Merci.
Merci. Bonne soirée.